ça fait probablement quelques 50 ans au moins que je suis engagé dans différentes actions de non-violence. Il y a des moments où, oui, où on ne trouve pas ça au début, on trouve que les choses sont vraiment très lentes, parce que la non-violence mise sur le changement des personnes. Il y a des moments où on trouve que c'est un peu long, mais je ne peux pas dire que j'ai eu des moments de vrai découragement là, dans ce domaine-là. Peut-être la chose qui m'a été la plus pénible, ça je dois la dire, c'est que j'ai souvent trouvé que l'engagement des croyants chrétiens et principalement l'engagement de l'Église que je sers, que j'aime, m'a semblé toujours un peu ambigu et pas toujours très profond. C'est cela peut-être qui quelquefois a introduit en moi une, disons au moins une très grande tristesse. Mais enfin, passons là-dessus. Je vois avec plaisir que maintenant, le mot non-violence ne fait plus dresser les oreilles d'un certain nombre de responsables dans l'Église. Alors, je m'en réjouis. Mais, par exemple, pour les questions nucléaires, il a fallu lutter beaucoup pour voir un engagement de l'Église catholique très clair là-dessus. Il me semble que pas seulement l'Église catholique, mais tous les croyants de quelque religion que ce soit devraient être au premier rang d'être des acteurs de paix par la non-violence. Parce qu'ils savent que l'être humain a besoin de se transformer. Et lentement, mais encore faut-il qu'il sache que si cette paix n'existe pas sous ses yeux, c'est peut-être en partie à cause de son inaction. Alors vous voyez, nous nous avons lancé donc il y a quelques années ces cercles de silence. Nous les avons lancés à Toulouse, où nous étions une communauté franciscaine un peu plus nombreuse, mais justement pour que la mentalité à l'égard des étrangers change.
Et alors justement, ces cercles de silence que vous avez initiés, je crois que c'était en 2007 à Toulouse, quelle oui. était l'idée au départ? Pourquoi justement des cercles de silence? Pourquoi garder le silence?
Eh bien, tout simplement parce que quand nous faisons face à des problèmes très graves, il faut se rendre compte que ce qui est en jeu actuellement, c'est très grave et que ça déborde le problème même des sans-papiers. C'est une façon de légiférer qui est extrêmement grave, non seulement pour le présent et pour les sans-papiers, mais pour l'avenir et pour une multitude d'autres secteurs. Quand on est face à un problème très grave, et notamment ce problème très grave de violer l'humanité d'êtres humains, même quand vous avez à mettre quelqu'un à la porte du pays, eh bien, encore faut-il respecter cette personne dans la façon de faire exécuter la loi. Mais il y a actuellement, dans des textes de loi, mais surtout des textes de règlement ou des instructions données aux officiers de la force publique ou aux membres de, enfin, aux préfets aussi, etc., des instructions qui violent très profondément la conscience humaine. Eh bien, ça, il faut le dire. Alors donc, nous avons choisi le silence parce que c'est une gravité qui est au-delà des mots. Alors, par instant, comme par exemple maintenant, je suis amené à employer des mots. C'est-à-dire, oui, nous le disons avec, nous essayons une certaine sobriété dans les mots parlés ou écrits. Mais devant cette situation très grave, nous avons pensé que beaucoup plus que des cris ou des slogans, des pétitions, le silence parlerait. Et en fait, nous avons été très étonnés, je dirais bouleversés, de ce que, bien actuellement, vous avez 170 cercles de silence en France et puis quelques-uns dans différents points de l'étranger européen. qui suivent cette même ligne. C'est parce que c'est très grave. Et ça, je ne suis pas certain que tout le monde catholique en France ait bien perçu cela pour l'instant.
Alors, est-ce que dans cette optique, le silence devient une arme de la non-violence, pour utiliser des termes liés ?
Eh bien, ne disons pas une des armes de la non-violence, mais le silence, oui, est un des moyens de la non-violence pour exprimer, d'une part, cet outrage que ressent notre conscience, et pour aussi inviter plus de personnes à écouter leur conscience, et aussi que les décideurs qui sont les gens qui ont actuellement un pouvoir, et aussi les membres du Parlement qui ont à faire des lois, et puis ceux qui ont à les exécuter, tout le monde a à écouter sa conscience. C'est une des demandes de la morale chrétienne sur laquelle nous ne pouvons pas transiger. Écouter notre conscience. Et alors, eh bien, il y a, par exemple, des tas d'exécutants qui sont conduits à faire des choses qu'ils réprouvent et pour lesquelles il est difficile de faire objection de conscience ou de désobéir parce que ça met en jeu leur possibilité de nourrir leur famille. Et ça, c'est terrible. Et c'est terrible que des ordres soient donnés à des personnes qui sont amenées à agir contre leur conscience. Et nous en connaissons, vous savez. Nous avons reçu des témoignages, quelquefois très directs, ou avec des témoins sûrs qui nous ont transmis cela. Alors, c'est pour ça que nous pensons que le silence est important. Et alors, durant le silence, eh ben, les croyants peuvent prier et écouter leur conscience, mais n'importe qui, je dirais, quelles que soient ses options religieuses, son manque d'options religieuses, sa philosophie, peut écouter sa conscience. Parce que, Dieu merci, la très grande majorité des incroyants de notre époque sont des personnes qui savent écouter leur conscience dans bien des cas.